This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères. Une émission de Gérard Violcé, Alain Vaquier. Ces années-là, 30 et 31, se fait sentir les effets de la crise financière d'octobre 1929. C'est ce que l'on va appeler la Grande Dépression et qui va donc plonger les États-Unis dans un marasme économique sur fond de prohibition, de gangstérisme et de montée du nazisme, même aux États-Unis.
Ce défilé de nazis n'a pas lieu en Allemagne, mais à Central Park, à New York. 20 000 personnes, dont quelques 8 000 SA, membres des troupes d'assaut en uniforme, et des milliers d'adolescents américains, venus des camps de jeunesse organisés sur le modèle des camps des jeunesses hitlériennes, se dirigent vers le Madison Square Garden pour proclamer les droits des blancs chrétiens, les vrais patriotes. Au cours du meeting, la foule qui conspue le nom de Roosevelt fait le salut nazi en criant « Heil Hitler ».
Et ils ont commencé à descendre dans la rue et à frapper tous ceux qu'ils jugeaient suspects, les juifs, les immigrés.
Pour la première fois depuis très longtemps, il y a eu une réelle possibilité de voir une dictature renverser la démocratie. Je crois que c'était une menace bien réelle.
Ainsi donc, après le crack de 29, la production industrielle américaine va baisser de moitié. Entre 1930 et 1932, 773 établissements bancaires firent faillite, ce qui va faire augmenter de manière conséquente le taux de chômage chez les ouvriers. Aux États-Unis, ce taux augmente fortement au début des années 30, il va atteindre 9%, et le pays va compter quelque 13 millions de chômeurs en 1932. En 1933, lorsque Roosevelt devient président, 25% de la population active est au chômage et 2 millions d'Américains sont sans abri. Les manifestations de la faim se multiplient. En mars 1930, 35 000 personnes défilent dans les rues de New York. En juin 1932, des anciens combattants réclament le paiement des pensions à Washington. Ils seront violemment délogés par les soldats. Dans les campagnes, la situation économique se dégrade. En 1933, la diminution de 60% des prix agricoles affecte durement les agriculteurs. La ruine des fermiers des Grandes Plaines pousse des milliers de personnes à s'installer dans les États de l'Ouest. Face à la misère qui grandit, l'influence communiste progresse dans les milieux populaires.
Au début de la crise, beaucoup d'hommes continuaient à s'habiller comme s'ils se rendaient à leur travail. Ils ne voulaient rien dire à leur famille. Ils avaient trop honte de leur avouer qu'ils n'avaient plus d'emploi. Et ils passaient leur journée dans la rue en tenue de travail, juste pour ne pas être chez eux, pour être ailleurs.
Brisés par la crise, prêts à tout pour gagner de quoi survivre, de plus en plus de gens participent aux nombreux marathons de la danse, véritable jeu du cirque des années 30. La règle de ces épreuves est simple. Il faut danser le plus longtemps possible, parfois pendant plusieurs jours, avec l'espoir de gagner les $500 attribués au dernier couple à rester debout. Au grand plaisir des spectateurs qui s'y rendent pour oublier leur propre misère. Les organisateurs ont tout prévu. Des médecins, des lits et du ravitaillement. Les perdants, eux, auront au moins la possibilité de se nourrir.
C'est une des choses dont je me souviens. Et bien sûr, je revois aussi ces familles qui étaient expulsées de leur logement Aussi bas que soit le montant du loyer, ils n'avaient plus de quoi payer. Et la police arrivait, saisissait leurs meubles et les mettait sur le trottoir. Je me souviens, j'étais encore un petit garçon et je voyais tous ces meubles jetés dans la rue. Je regardais la mère en larmes, désespérée. Les familles ne perdaient pas seulement leur maison, c'était également une humiliation pour elles de voir toutes leurs affaires étalées aux yeux de tous, montrant à tout le monde qu'elles ne pouvaient plus payer leur loyer. Une ou deux fois, j'ai assisté à des scènes où les gens se révoltaient et remettaient les meubles à l'intérieur, s'opposant à la police. Ça arrivait assez souvent.
Quand les gens perdaient leur maison, ils devaient bien aller quelque part. Ils se retrouvaient le plus souvent dans des baraques de fortune, faites de carton et de matériaux de récupération. Ils dormaient dans les grottes de Central Park.
Il y avait des bidonvilles un peu partout en Amérique, habitées par les sans-abri. On leur avait donné le nom de Hooverville, pour se moquer du président Hoover.
Il y avait de nombreuses Hoovervilles dans Central Park à New York. Pendant des années, ces bidonvilles ont été la honte de notre société.
Once I lived the life of a millionaire, spending my money, Lord, I didn't care. I carried my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Didn't have no money and no place to go. If I get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grins, because nobody knows you. When you're down, in your pockets, not one penny, and your friends, you have not any. But when you get on your feet again, everybody wants to be your long-lost friend. It's mighty strange without a doubt. No man can use you when you're down.
Quand j'étais millionnaire, nous dit cette chanson, et qui s'achève avec « Quand l'Amérique recommencera à me sourire », et qui donc fait état de cette situation de misère qu'ont vécu des millions de personnes. Alors un écrivain, John Steinbeck, en 1939, et d'ailleurs il a eu le prix Pulitzer pour ça, puis un cinéaste, John Ford, en 1940, mettant en scène cette période avec Les raisins de la colère. Le film obtiendra 2 Oscars. Il est d'ailleurs assez étonnant de constater que la photo qui illustre le plus souvent la Grande Dépression est celle de la mère migrante de John Ford, incarnée par Dorothée Lange, sans que l'origine de ce cliché ne soit jamais précisée. Comme quoi un film peut quelquefois être plus vrai que des documents pris sur place au moment des événements. Le témoignage que nous avons entendu là tout à l'heure fait état de concours de danse. On peut en voir là aussi une illustration dans un film de Ciné Polak qui s'appelle « On achève bien les chevaux » et qui est l'histoire donc d'un de ces concours de danse qui s'achève assez mal. Alors la diffusion de cette crise va se faire au-delà des États-Unis par deux canaux. Comme les banques américaines ont alors des intérêts dans de nombreuses banques et bourses européennes et qu'elles rapatrient d'urgence leurs avoirs aux États-Unis, la crise financière va se propager progressivement dans toute l'Europe. Parallèlement, les échanges économiques internationaux subissent de plein fouet d'abord le ralentissement qui commence aux États-Unis, ensuite l'effet négatif des réactions protectionnistes, d'abord des États-Unis, puis de tous les autres pays quand ils sont touchés à leur tour. la France et le Royaume-Uni effectuent un recentrage sur leurs colonies, mettant au point la préférence impériale, comme ils le diront, préférence qui était interdite depuis la conférence de Berlin de 1885, mais qui sera à nouveau pratiquée après 1914. Les relations économiques étant à l'époque bien moindres qu'aujourd'hui, ces répercussions mettront quelques mois à se manifester. Ainsi, la France est touchée par la crise à partir du second semestre de 1930, soit 6 mois plus tard. L'Italie fasciste, déjà, sera touchée à partir de 1931. Il est remarquable de voir que Tintin en Amérique, d'Hergé, ne consacre qu'une image à la crise de 1929 et des années qui suivent. Et ça reste d'une manière très anecdotique. Les réactions gouvernementales en Europe ne sont pas plus adéquates qu'aux États-Unis. En France, la crise sera aggravée par des mesures déflationnistes, baisse des prix et des salaires. Les gouvernements Tardieu et Laval, malgré le lancement de grands travaux, un peu à l'image du New Deal de Roosevelt, seront tardifs et ne s'opposeront pas suffisamment à la crise. En Allemagne, le taux de chômage atteint plus de 25% de la population active en 1932, déjà. Ça alimentera la désillusion, la colère, et c'est notamment en promettant de juguler la crise qu'Adolf Hitler parviendra au pouvoir le 30 janvier 1933. En Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, se produit la crise des produits de dessert liée à la forte baisse du pouvoir d'achat en Europe et en Amérique du Nord. Le chocolat notamment. Au Brésil, pour limiter les transports d'invendus et maintenir les cours, le café est brûlé dans des locomotives. Et si le monde occidental entier est touché, l'Union soviétique de Staline, elle, reste à l'écart de la crise en raison de son système économique autarcique et de la non-convertibilité du rouble.
Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail, but Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy, ho!
Smoking. She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around.
Showed her how to kick the gong around.
Howdy ho!
Howdy ho!
Howdy ha ha!
Howdy ha ha!
What a weevil!
What a weevil!
Howdy, howdy, ho.
Howdy, howdy, ho.
Now she had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with a platinum wheel. Waddy, woody, way.
Waddy, woody, way.
Oh, baby.
Oh, baby.
Howdy ho,
howdy ho.
Now he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times. Howdy, howdy,
howdy, howdy.
Oh, Minnie,
oh, Minnie.
Howdy, 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 howd
Ainsi, pendant la Grande Dépression, le show must go on. Et donc, c'est Cab Calloway qui succède à Duke Ellington au Cotton Club. Pardon. Ça s'appelle Minnie the Moocher. C'était presque l'indicatif de cet orchestre enregistré le 3 mars à New York. A signalé que la prestation de Cab Calloway, comme celle d'Ellington, était enregistrée pour la radio. Alors, la carrière musicale de Cab Calloway avait commencé à Chicago. Pendant ses études de droit qu'il poursuivait, il allait souvent jouer de la batterie dans les petits clubs du Southside. Et puis, peu à peu, il se consacra au chant. C'est durant l'hiver 28-29 qu'il se rend à New York, passe au Savoy, et puis est engagé dans les Missourians, dont il prendra rapidement la direction. Avec cette formation, il est engagé donc au Cotton Club quand Duke Ellington part en tournée, puis définitivement quand Ellington quitte cet engagement. Et il raconte, au cours d'un de nos spectacles diffusés par radio à travers tous les États-Unis au printemps 31, à peine avions-nous commencé l'exécution de notre indicatif, Minnie the Moocher, alors que je chantais en plein milieu du couplet, comme ça arrive parfois, voilà que ces putains de paroles ne me reviennent pas. Oubliées, complètement oubliées. Je ne pouvais pas donc m'interrompre, comme je l'aurais fait si nous n'avions pas été en direct à la radio. Il fallait que je continue quand même. Alors, je me suis mis à scatter, bredouillant ce qui me venait en tête. Hi-hi de hi, hi-hi de ho, holy holo. Et le public s'enthousiasmait. Et donc, j'ai poursuivi. Fin de citation. Rien d'original, puisque Armstrong avait fait la même chose avec un thème intitulé Hibi Jibis en 1926. La différence, c'est que du scat, Cab Calloway en a fait sa marque de fabrique, le hi-hi de ho man, et son fonds de commerce avec un énorme succès. Alors Calloway joue au Cotton Club et Fletcher Anderson, quant à lui, compose un de ses meilleurs thèmes, Clarinette Marmalade. Thank you. Clarinette Marmalade, enregistré le 29 avril 1939 à New York par le Fletcher Renderson Orchestra, grande formation parmi les nouvelles grandes formations qui se sont imposées à cette époque. Alors ces années-là, on voit apparaître également de nombreuses comédies musicales, ces spectacles que l'on pourrait d'une certaine façon comparer à nos opérettes, mais avec beaucoup plus de tonus, beaucoup plus de musique et beaucoup plus de danse. Et les auteurs de ces comédies musicales sont George Gershwin, Irving Berlin ou Cole Porter, qui laisseront leur nom dans l'histoire de la musique américaine. Je vous propose d'écouter un document, c'est l'interprétation de l'ouverture d'une comédie musicale intitulée Girl Crazy de George Gershwin. C'était en 1931 et c'est le compositeur lui-même qui joue cette ouverture. C'est un morceau qui laissera des traces, ça s'appelle « I Got Rhythm ». George Gershwin lui-même jouant cette composition qui deviendra un véritable standard que joueront des centaines de fois des musiciens de jazz et qui en fait était l'ouverture de cette comédie musicale Girl Crazy, et donc intitulée I Got Rhythm. Alors on ne dira jamais assez que certes la communauté noire américaine a donné de nombreux musiciens, mais la communauté indienne a également donné quelques musiciens ou quelques chanteuses. Et il en est une en 1931 qui donc s'est fait connaître, qui était une chanteuse tout à fait conséquente. Elle était Cherokee. Elle s'appelait Mildred Bailey. Elle était née en 1907. C'était une amie de Bessie Smith, une amie intime avec laquelle elle plaisantait sur leurs embonpoints respectifs. Son chant fut d'abord largement inspiré par celui de son aîné et puis ensuite par celui de Ethel Waters, qui est une autre chanteuse de la même époque. Elle possédait également une très forte personnalité, probablement la plus grande chanteuse, entre guillemets, blanche de son époque. Elle était seule alors en mesure de rivaliser avec ses consœurs noires, en l'occurrence Ella Fitzgerald notamment. Elle possédait une voix souple, facile dans le registre aigu, un swing assez ferme et un chant très raffiné. Elle pouvait chanter aussi bien le blues que des chansons populaires sans jamais tomber dans la mièvrerie. Elle enregistra avec Teddy Wilson et Roy Eldridge et connaîtra ensuite, tout comme Bessie Smith, une période de déclin à la désaffection quand le swing s'est imposé. Pourtant, je pense qu'il est intéressant de l'écouter dans cette interprétation de « Georgia on my mind ».
Melodies bring memories that linger in my Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind, Georgia, Georgia. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Mildred Bailey, donc une chanteuse Cherokee de la communauté indienne qui jouait donc ce Georgia on My Mind, qui chantait une version que je trouve assez remarquable, même si elle est évidemment très différente de celle qu'a pu nous donner quelques années plus tard Ray Charles, beaucoup moins soul celle-là que celle de Ray Charles. Un enregistrement qui date du 24 novembre 1931 a signalé que le solo de violon était assuré par un musicien appelé Matty Malnek. Très beau solo de violon. Voilà, ainsi s'achève cet épisode des années 30-31. Les extraits que vous avez entendus dans cette émission, les extraits de témoignages, sont tirés du film de William Carell sur la Grande Dépression de 1929 qu'il avait réalisé pour la chaîne Arte. Demain est un autre jour et une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.